Un commandement dont Jésus parle à plusieurs reprises, mais qu'il n'invente pas, puisqu'il le tire de l'Ancien Testament et plus précisément du livre du Lévitique. J'aimerais aborder ce matin ce commandement dans le cadre de notre série, et pourtant Jésus l'a dit, série où nous abordons des paroles de Jésus difficiles à comprendre, parfois difficiles à obéir, parfois même polémiques. Je l'aborde donc dans ce cadre et j'aimerais aussi l'aborder à la suite des dernières rencontres de quartier où le canevas qui a été proposé portait justement sur ce même commandement. Et donc ce message servira aussi de synthèse, si cela est nécessaire, à cet enseignement. Le texte qui va servir de point de départ à notre méditation est celui de Matthieu, chapitre 22. Je vais lire les versets 34 à 40, et je lis dans la traduction de la Nouvelle Bible Second. Matthieu, chapitre 22, versets 34 à 40. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent, et l'un d'eux, un spécialiste de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second cependant lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cette parole, en apparence simple et facile à comprendre, comporte néanmoins quelques difficultés que l'on peut traduire par quelques questions. Qui est mon prochain? Peut-il être mon ennemi? Peut-il être celui qui m'a blessé? Dois-je l'aimer même s'il n'est pas aimable? Faut-il s'aimer soi-même pour bien aimer son prochain? Faut-il d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer son prochain? Et si je ne m'aime pas, qu'en est-il? Et si je m'aime mal, qu'en est-il? Que veut dire « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Avant d'apporter quelques éléments de réponse à ces questions, il faut que nous considérions notre parole dans son contexte. Qu'apprenons-nous de ces quelques versets de Matthieu ? Jésus vient de réduire au silence les sadducéens sur la question de la résurrection. Ce sont les versets qui précèdent notre texte. Les pharisiens l'apprennent et ils décident à leur tour de piéger Jésus, de le mettre à l'épreuve, dit le texte. Ils le font en lui posant la question du grand commandement de la loi. Y en a-t-il un qui est au-dessus des autres? Maître, verset 36, quel est le grand commandement de la loi? La réponse de Jésus a de quoi surprendre. S'il est évident que le plus grand des commandements est celui de l'amour dû à Dieu, Jésus va lui associer celui de l'amour dû au prochain en affirmant que celui-ci est semblable au premier. Je relis les versets 37 à 39. Il lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Jusqu'ici, à n'en pas douter, les pharisiens étaient d'accord avec Jésus. C'est là le grand commandement, le premier. Tout va bien. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment l'amour pour le prochain peut-il être mis sur un pied d'égalité avec l'amour pour Dieu. Et puis, comment comprendre ce que Jésus dit ensuite quand il affirme que ces deux commandements résument toute la loi ? Puisque toute la loi, dit-il, dépend de ces deux paroles. Si l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain sont semblables, c'est en réalité car le second commandement n'est qu'une application du premier. Si j'aime Dieu, et à plus forte raison d'une manière entière, si cela est possible, alors j'aime forcément mon prochain. J'aime forcément mon prochain si j'aime Dieu. Mon prochain qui, comme moi, est une créature de Dieu, qui, comme moi, est fait en image de Dieu, qui, comme moi, est l'objet de l'amour de Dieu. Les deux commandements, dit Jésus, sont indissociables. Ils sont liés l'un à l'autre. En réalité, l'amour que j'ai pour mon prochain reflète l'amour que j'ai pour Dieu. Il ne peut en être autrement. Je ne peux pas aimer Dieu et haïr mon prochain. Pourquoi ? Car si j'ai de la haine pour mon prochain, alors c'est que je n'aime pas vraiment Dieu. C'est fort. Ce que l'apôtre Jean écrit dans sa première épître va dans la même direction. 1 Jean chapitre 4, versets 19 à 21. Quant à nous, nous aimons parce que lui nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alors, bien évidemment, il est question ici, dans ce texte de la première de Jean, d'amour fraternel. Pas juste d'amour du prochain. Je fais personnellement une distinction entre les deux. Pour moi, le frère ou la sœur dans la foi est de fait mon prochain, si je suis en Christ. Mais mon prochain n'est pas forcément un frère ou une sœur en Christ. Ceci dit, le principe visible dans ce texte de 1 Jean me semble pouvoir s'étendre au prochain. Si j'aime Dieu, cela se traduira nécessairement par l'amour des frères et sœurs en Christ et aussi par l'amour du prochain. Et si ce n'est pas le cas, alors je mens en affirmant que j'aime Dieu. Dans notre texte de Matthieu 22, Jésus ne met pas seulement les deux commandements sur un pied d'égalité, mais il dit aussi que toute la loi dépend de ces deux commandements. Toute la loi, c'est plus de 600 commandements. Comment cela est-il possible ? En fait, toute la loi n'est que le développement de l'amour pour Dieu et de l'amour du prochain. L'amour du prochain est en lui-même le développement de l'amour pour Dieu ou le prolongement de l'amour pour Dieu. Cela veut dire à strictement parler que la Torah, la loi dans l'Ancien Testament, n'est en fait que le développement de l'amour que nous devons à Dieu, qui se traduit premièrement par l'amour du prochain, et tout ça se développe dans les 600 et quelques commandements de la loi. Il n'est donc pas possible d'obéir au reste de la loi si on n'obéit pas à ces deux commandements, puisqu'ils sont liés, puisque tout le reste de la loi en dépend, puisque tout le reste de la loi n'est que le prolongement de ces deux commandements. Pour avancer dans la compréhension de notre texte, il faut maintenant déterminer l'identité du prochain. Qui est mon prochain ? De quoi parle-t-on quand on parle de l'amour du prochain. Alors, si jamais il y en a qui ne connaissent pas les Mignons, je vous renvoie vers le maintenant célèbre dessin animé « Moi, moche et méchant ». Il faut l'avoir au moins vu une fois dans sa vie, je pense. Enfin, voilà, petit personnage que beaucoup connaissent. Qui est mon prochain? Est-ce chaque personne que je connais? Est-ce que c'est chaque personne qui vit sur la surface de la terre? Est-ce que c'est chaque personne que je rencontre quand je vais faire mes courses, quand je vais à l'école, quand je sors dans la rue, quand je vais au médecin, peu importe, quand je suis en vacances? Qui est mon prochain? Et nous comprenons aisément que selon la réponse que nous apportons à cette question « Qui est mon prochain ?», nous arriverons à une compréhension différente de notre commandement. Notre commandement, je l'ai dit en introduction, est une citation d'un texte du Lévitique, chapitre 19, verset 18. Alors, pour gagner du temps et pour être résolument plus court que la semaine dernière, je ne vais pas maintenant rentrer dans ce texte, je l'ai fait dans mon bureau et je vais en résumer une ou deux choses rapidement. Et ce que je retiens de Lévitique 19 concernant le prochain, c'est qu'il s'agit dans ce texte-là, dans les versets qui précèdent le verset 18, il s'agit du compatriote israélite, il s'agit du frère, de la sœur, il s'agit du membre de la communauté d'Israël. Ça, c'est pour ce qui précède le verset 18. Mais tout de suite après, dans le même chapitre 19 du Lévitique, le sens du prochain est élargi. Et il est élargi pour englober l'étranger, l'immigré, celui qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Et que lisons-nous dans ce chapitre, dans ces versets qui suivent? Nous lisons que lui aussi, cet étranger, cet immigré, comme le membre du peuple de Dieu, doit être aimé de la même manière, à savoir comme soi-même. Si un immigré vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas, vous traiterez l'immigré qui séjourne avec vous comme un autochtone d'entre vous, tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigré en Égypte, je suis le Seigneur votre Dieu. Cela nous amène à dire que le sens du prochain dans Lévitique 19 et par extension dans toute la loi de l'Ancien Testament, et même dans les prophètes, ne peut être restreint aux seuls membres du peuple de Dieu. La notion de prochain dans l'Ancien Testament est à l'évidence beaucoup plus vaste. Et c'est très certainement la compréhension que Jésus avait aussi de cette notion de prochain. Revenons maintenant à notre question. Qui est mon prochain ? Du point de vue des mots, le prochain, c'est celui qui m'est proche. Ce n'est donc pas tout le monde. En tout cas, pas tout le monde au même temps. Ce n'est pas tous les habitants de la terre, mais celle et celui qui me sont proches. Et nous notons que les lignes peuvent bouger. Mon prochain, ce n'est pas quelque chose qui est déterminé une fois pour toutes. Je ne sais pas, à la majorité, ou quand on a 15 ans, ou quand, à quel moment le déterminerait-on? Il n'y a pas un moment dans la vie où la liste est close et définitive. C'est la raison pour laquelle le prochain d'aujourd'hui n'est pas forcément le prochain de demain. Et le prochain de demain, celui d'après-demain. Notons encore que la proximité qui fait le prochain n'est pas forcément et exclusivement géographique. Mon prochain peut parfois être à distance, parce qu'il est proche du cœur et qu'il est proche par d'autres liens que la proximité géographique. Il peut avoir déménagé. Cesse-t-il d'être mon prochain dès qu'il s'éloigne de moi ? Alors, si c'était le cas, il faudrait dire à partir de combien de kilomètres il cesse d'être mon prochain. Ces précisions sont sans doute utiles, mais elles ne sont pas suffisantes pour répondre à la question de l'identité du prochain. Il faut que nous soyons un peu plus précis. Et nous sommes gâtés parce que Jésus l'est pour nous. Jésus l'a été pour nous en répondant un jour précisément à cette question qui lui était posée, « Qui est mon prochain ?» Et cette question et sa réponse, c'est la fameuse parabole du bon samaritain. Alors on ne va pas la lire en entier, on ne va pas la commenter, mais juste quelques versets. Tout d'abord, Luc chapitre 10, versets 25 à 29. Un spécialiste de la loi se leva et lui dit pour le mettre à l'épreuve. Décidément, tout le monde cherchait à mettre Jésus à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi ? Comment lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. » Il en rajoute un quatrième. « Et ton prochain comme toi-même. » Il avait compris que toute la loi se résume dans ces deux commandements. « Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. » Mais lui voulut se justifier et dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ? » ?»« Et qui est mon prochain ?» Alors on va sauter directement à la conclusion de la parabole. Et nous allons constater là qu'il y a un renversement qui s'opère. Le spécialiste de la loi qui cherche à mettre Jésus à l'épreuve, lui a posé la question « Qui est mon prochain ?» Et que dit Jésus à la fin de la parabole ? Nous lisons versets 36 et 37 « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé aux mains des bandits ?» Il répondit « C'est celui qui a montré de la compassion envers lui. » Jésus lui dit « Va et toi aussi fais de même. » La question « Qui est mon prochain ?» est devenue « Qui a été le prochain de celui qui est tombé aux mains des brigands ?» Qui est mon prochain ? Qui a été le prochain de celui qui est tombé aux mains des bandits ? Jésus inverse le regard. Ce qui compte, ce n'est pas vraiment, ou ce qui compte vraiment, ce n'est pas l'identité du prochain. S'il est juif ou samaritain, ça n'a pas d'importance. Ça en avait sans doute pour ceux qui étaient avec Jésus. S'il est noir ou blanc, ça n'a pas d'importance. S'il est aimable ou pas, ça n'a pas d'importance. S'il est de droite ou de gauche, ça n'a pas d'importance. S'il est chrétien ou pas, si à mes yeux il vit dans le péché ou pas. Et nous pourrions continuer. Ça n'a pas d'importance quand il s'agit de répondre à la question « Qui est mon prochain ?» Ce qui compte, c'est de comprendre ma responsabilité envers celui qui est mon prochain et dont je suis aussi le prochain. Ce qui compte, ce n'est pas d'identifier le prochain, dans quelle catégorie il peut se trouver ou que sais-je. Ce n'est pas d'identifier le besoin de mon prochain. Ce qui compte, c'est d'agir. Ce qui compte, c'est d'être le prochain de mon prochain. Et ce prochain, Jésus l'identifie dans la parabole comme celui qui est dans ma proximité et qui a besoin de moi, quelle que soit la catégorie dans laquelle il peut se trouver. Bien sûr, tous mes prochains ne sont pas forcément dans le besoin ou dans le besoin de la même manière. il y a des prochains qui ne sont pas dans le besoin, ou qui sont moins dans le besoin peut-être que je peux l'être à un moment donné dans ma vie. Il y a des prochains avec tous les degrés de besoin. Et mon amour pour eux, bien évidemment, ne se traduira pas de la même manière. Je ne vais pas aimer de la même manière celui qui est blessé sur le bord du chemin et celui qui est debout. Il est donc nécessaire d'exercer notre discernement et notre sagesse dans ce domaine de l'amour qui est dû au prochain. Il y aurait là des choses à développer certainement, mais je passe. Qui est mon prochain ? La parabole répond que ce n'est pas la terre entière. Ce ne sont pas que les membres du peuple de Dieu. Le Samaritain n'était pas un juif et n'était certainement pas un membre du peuple de Dieu. Il était même l'ennemi juré des juifs. Ce n'est pas non plus quelqu'un que je choisis, que je choisirais par affinité ou avec un autre critère. Ce n'est pas celui ou celle qui appartient à tel ou tel groupe ou telle catégorie. Rien de tout cela. Le prochain, c'est celui qui m'est proche, celui qui a besoin de moi, celui qui entre dans ma vie, dans ma proximité. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous allons bientôt nouer la gerbe, mais nous allons esquisser un début de synthèse et puis finir de répondre aux questions importantes que pose ce commandement. Nous avons appris jusqu'ici ou compris que c'est une parole exigeante. Je pense que nous en sommes tous conscients. C'est un commandement. Ce n'est pas une option, ce n'est pas la carte, ce n'est pas si ça me plaît ou pas. C'est un commandement. Ce n'est pas une question d'humeur, d'envie, je suis fatigué, je me suis levé du bon pied, pas du bon pied. C'est un commandement. Il n'est pas question de choix non plus. Nous avons aussi appris et compris que notre amour pour notre prochain est indissociable de notre amour pour Dieu. Aimer Dieu, c'est forcément aimer son prochain. Il n'est pas possible de faire de distinction entre les deux. Il n'est pas possible de se soustraire à ce commandement de l'amour du prochain si j'aime Dieu. En fait, ce commandement de l'amour du prochain, c'est un certain regard sur la vie, sur ma vie, qui nous est proposé et que nous devons adopter. C'est bien évidemment un regard altruiste. C'est un regard qui place Dieu au centre de ma vie, au cœur de ma vie. Quand je dis qu'il place Dieu, je veux dire bien évidemment Dieu et ses exigences, Dieu et sa parole, Dieu et sa volonté. Un regard qui va donc résolument à contre-courant de l'individualisme et de l'égoïsme qui caractérise l'homme pécheur, qui me caractérise, et qui caractérise la société dans laquelle nous vivons. Mais nous ne sommes pas encore tout à fait au bout de notre réflexion, parce que nous n'avons pas encore parlé de cette phrase à la fin du commandement, « comme toi-même ». Comment comprendre cette précision ? Nous comprenons que Dieu nous demande d'aimer notre prochain. Bon, comprenons que c'est lié à l'amour pour Dieu, nous comprenons. Mais comment comprendre qu'il nous demande de l'aimer comme nous-mêmes ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que cela signifie qu'il faut se voir dans l'autre pour pouvoir l'aimer, à l'instar de ce dessin ? Cela signifie-t-il qu'en aimant l'autre, c'est finalement moi que j'aime ? Peut-être que certains iraient dans cette direction, mais il me semble que ça serait vraiment tordre le sens de ce commandement et de la pensée biblique qui sous-tend ce commandement que d'arriver à cette compréhension. Et en même temps, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, et je me fais du bien quand j'aime mon prochain, c'est une évidence. Mais de dire que c'est là le sens du commandement, c'est encore autre chose. Cela signifie-t-il qu'il faut impérativement s'aimer soi-même pour pouvoir aimer le prochain ? Et on évite bien évidemment les excès, les écueils, celui qui consiste à trop s'aimer, tout le temps devant le miroir comme ça, qu'est-ce que je suis beau, etc. Et puis celui qui est tout le temps en train de se dévaloriser. On évite les écueils, on cherche un juste milieu. Est-ce que c'est de cela dont il s'agit ? Est-ce que ce commandement nous appelle à porter un regard juste sur nous-mêmes ? C'est ainsi que certains comprennent notre commandement. Mais il me semble, même s'il y a du vrai, là aussi, dans cette compréhension, que c'est bien trop restrictif et que ce n'est pas là le sens de cette parole. Si nous ne pouvions bien aimer notre prochain que quand nous avons un juste regard sur nous-mêmes, je ne sais pas si nous aimerions souvent notre prochain. Et puis je ne pense pas, personnellement, que ce soit là la pensée de Jésus en citant cette parole. Cela signifie-t-il que je dois aimer l'autre avec la même indulgence que j'exerce à mon égard, à mon encontre, la même tolérance, la même patience? Il y a l'évidence du bon sens ici, et même de la vérité dans cette option. Mais là encore, est-ce là le sens de ce que Jésus dit ici ? J'aimerais suggérer que c'est une autre parole de Jésus qui nous éclaire sur le sens de cette phrase « comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et cette phrase, nous la trouvons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 12. « Tout ce que vous voulez que les gens fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux. » C'est là la loi et les prophètes. Tiens, on retrouve la loi et les prophètes. J'aimerais suggérer que c'est principalement ainsi qu'il faut comprendre la phrase « comme toi-même ». Aimer son prochain comme soi-même, c'est agir à son égard comme j'aimerais qu'on agisse envers moi si j'étais à la place de mon prochain. C'est faire à mon prochain ce que j'aimerais qu'on me fasse si j'étais à sa place. C'est être patient avec lui comme j'aimerais qu'on le soit avec moi. C'est écouter de la même manière que j'aimerais être écouté. C'est donner comme j'aimerais recevoir. C'est pardonner comme j'aimerais être pardonné. C'est aimer comme j'aimerais être aimé. Et Jésus dit qu'en agissant ainsi, nous agissons selon la loi et les prophètes. Nous accomplissons l'amour pour Dieu et l'amour pour le prochain dont dépendent toute la loi et les prophètes. Se mettre à la place de l'autre, c'est ce que Jésus a fait en prenant sur lui notre humanité. C'est ce qu'il a fait en prenant sur lui notre condamnation, notre péché et même notre mort. Il nous a aimés d'un amour total, entier, sacrificiel, en prenant notre place de l'incarnation jusqu'à la crucifixion, en donnant sa vie pour nous. Y a-t-il d'ailleurs de plus grand amour pour son prochain que de donner sa vie pour ses amis ? Jésus nous a aimés, il a aimé ses prochains en se mettant à leur place, en prenant leur place et en donnant sa vie à leur place. Et il nous a aimés ainsi parfaitement. Et il a ainsi parfaitement accompli, et il est le seul à l'avoir fait, il a ainsi parfaitement accompli ce commandement de l'amour du prochain. Et il nous laisse son exemple parfait. Son exemple parfait comme modèle, comme inspiration, comme chemin. Comment aimer notre prochain ? Comme si nous étions à sa place, et puis comme Jésus nous a aimés. D'ailleurs, Jésus dira à ses disciples ce qui peut être compris comme un prolongement, voire une redéfinition de l'amour du prochain, que leur dit-il à deux reprises dans l'évangile de Jean, d'abord au chapitre 13 et ensuite au chapitre 15. « Je vous donne un commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. » C'est pas tout à fait pareil, hein, comme soi-même, comme je vous ai aimé. Que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Puis plus loin, vers chapitre 15, voici mon commandement, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Personne n'a de plus grand amour que celui qui se défait de sa vie pour ses amis. Vous, vous êtes mes amis, si vous faites ce que moi je vous commande. Comme je vous ai aimé, en vous donnant pour les autres, en cherchant leur intérêt, en mettant leur intérêt avant le vôtre, en aimant Christ, en aimant, pardon, comme Christ nous a aimés. La barre est haute, n'est-ce pas ? La barre est haute et l'exigence de l'amour du prochain nous dépasse. Nous sommes en réalité plutôt démunis devant cette exigence de l'amour du prochain. Mais j'aimerais suggérer que c'est quand nous sommes en Christ et par lui, par Christ, que nous pouvons véritablement nous engager sur ce chemin de l'amour du prochain. Alors bien sûr, même ceux qui ne sont pas en Christ, même les non-chrétiens, peuvent aimer leur prochain, et ils le font parfois remarquablement. Malgré la chute et le péché, il reste quelque chose de l'image de Dieu en chaque homme et en chaque femme sur cette terre. Mais c'est véritablement en Christ et par lui que nous avons la force de pleinement nous engager sur ce chemin, d'aimer comme il a aimé. Le désir ou la nécessité d'aimer, c'est une chose. La force, c'en est une autre. Et vous connaissez peut-être ce livre qui regroupe des messages, des prédications de Martin Luther King qui s'appelle justement « La force d'aimer ». Un titre qui dit là où, enfin qui montre, quand nous lisons ce titre, que c'était en Christ que Martin Luther King puisait dans sa foi la force d'aimer dans le contexte que vous connaissez. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est exigeant, mais Jésus l'a dit. Et il ne s'est pas contenté de le dire, mais il l'a aussi exemplifié à la perfection. Il ne s'est pas contenté de le dire, mais il veut aussi nous donner la force de la vie, de le vivre. C'est en lui que nous puiserons avec efficacité la force d'aimer. La force d'aimer Dieu, premièrement, et puis la force d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ne devez rien à personne, dit l'apôtre Paul, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Les uns les autres. On est encore dans le registre de l'amour fraternel, mais je crois que j'ai un peu démontré qu'on pouvait l'étendre. Car celui qui aime l'autre a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne désireras pas. Et tout autre commandement se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. Il y a un chant qui s'impose, en tout cas qui s'est imposé à moi à la fin de ce message, c'est une prière. Une prière où nous demandons à Dieu l'amour. L'amour pour lui, premièrement, et l'amour pour les autres, ensuite. Et je vous invite à chanter ce chant comme une réponse à cette parole exigeante de Jésus. C'est en Dieu, par le Christ, que nous voulons trouver la force d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Nous allons nous lever pour chanter, et après ce chant, j'invite celles et ceux qui ont mis leur confiance, leur foi dans l'œuvre du salut à partager le pain et le vin qui circuleront dans les rangs. Chantons.